À 16h50, Raphaël, j'avais tellement hâte de te parler.
C'est réciproque.
Ben écoute, merci. Quel week-end pour Donald Trump. Et puis, je pense que tu vas nous parler d'une petite vidéo aussi très révélatrice de M. Trump.
Pas tant le jour du rallye, mais au retour du rallye. Et, tu sais, c'est dommage, tu dis qu'on t'avais hâte qu'on se parle. J'aurais tellement aimé ça aujourd'hui, exceptionnellement, qu'on fasse de la télévision et non de la radio ensemble, parce que quand on dit qu'une image vaut mille mots, pour ceux qui ont la chance d'aller chercher ça sur leur téléphone intelligent, sur Internet, cette vidéo de quelques dizaines de secondes de Donald Trump qui rentre, débarque de Marine One sur le sol, les sols de la Maison-Blanche, écoute...
Il y a le caquéba.
C'est incroyable. Je l'ai jamais vu, en fait, comme ça. Sa casquette rouge Make America Great Again dans les mains, la chemise un peu défaite, la cravate détachée et la mine basse. Sais-tu à quoi il m'a fait penser, Marc-Claude?
Non.
Il m'a fait penser à moi quand j'avais 12 ans. Mon équipe de hockey venait de manger une volée puis mes parents venaient me chercher avec ma poche de hockey sur le dos. Tu sais, la mine basse, là, c'était vraiment comme ça, comme un petit gars qui venait vraiment de subir un dur coup.
Oui, mais oublie pas qu'il y avait un public aussi. Fait que moi, tu me connais, ça me fait me poser des questions. Genre, est-ce que c'est un autre show qu'il fait, là?
Bien, j'ai de la misère à croire ça dans la mesure où ce type-là, depuis qu'il est certains diraient depuis qu'il est en affaires, mais très certainement au minimum, depuis qu'il est en politique active depuis 5 ans, il a une obsession avec la projection de la force, avoir l'air toujours du mâle alpha. Ça, c'était tout sauf ça. Et il faut comprendre, pour ceux qui ont peut-être passé la fin de semaine au soleil, ont peut-être moins consulté ce qui s'est passé samedi soir, c'est que Donald Trump voulait relancer sa campagne de réélection. On le sait, ça fait 3 mois que, à la fois lui et Joe Biden, son rival démocrate, sont un petit peu en mode hibernation. Et donc, lance cette espèce de tentative justement de rallumer sa campagne avec un rallye auquel on annonçait 800 000 personnes. Et tu le sais comment, Marie-Claude, à quel point Donald Trump, depuis justement qu'il est en politique active, ça fait 5 ans à peu près, à quel point la grosseur des foules pour lui, c'est presque un objet d'obsession.
Tout à fait. Il a tendance à les grossir d'ailleurs. Il a des yeux particuliers. Là.
Oui, en effet, pour agrandir les siennes et rapetisser celles d'autrui.
Voilà.
Mais là, le problème, c'est que les yeux de tout le monde, incluant les siens, pouvaient voir la réalité telle qu'elle était samedi, et elle était immanquable. Il n'y avait pas un chat à l'extérieur de l'aréna, et à l'intérieur de l'aréna, selon les meilleures estimations du service de police de Tulsa, la ville en Oklahoma où le rallye avait lieu, c'était à peu près les 2/3 des sièges qui étaient vides.
Oui, il y avait 6 000 personnes sur une possibilité de 19 000.
Ben c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'est grave en soi des sièges vides? Évidemment que c'est pas grave. Où ça devient problématique, c'est dans le contexte de la présidence et de la candidature Trump, où lui-même a tellement donné d'importance à ça et avait tellement annoncé quelque chose de grandiose. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, où c'est vraiment devenu, je dirais, royalement embarrassant, c'est lorsqu'on a appris dans les heures qui ont suivi que, en bonne partie, ça s'expliquerait, le nombre de sièges vides s'expliquerait par le fait qu'il y a des activistes sur Internet, particulièrement le réseau social TikTok, qui auraient délibérément acheté des billets en sachant très bien que jamais ils n'iraient au rallye en question, pour empêcher les gens qui, eux, auraient voulu y aller, d'y aller, et donc d'embarrasser le président. Et l'ironie ultime de la chose, TikTok, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec le réseau social, c'est un réseau social qui est particulièrement prisé par les adolescents. Tu sais, fait que le président des États-Unis qui se fait un petit peu humilier par des activistes sur une plateforme d'ados.
Ouais, qui se fait avoir, puis évidemment, Catherine, t'écoute religieusement, puis elle a quelque chose à te demander.
Mais je voulais savoir, Raphaël, ces gens-là, bon, ont fait ce vilain tour-là de ne pas d'acheter ou se procurer des billets et de ne pas assister au rassemblement. Mais c'est pas des voteurs, par contre. C'est pas des gens qui pourraient, tu sais, parce qu'on se dit, faudrait que ces gens-là sortent dans la rue, faudrait que ces gens-là manifestent un droit de vote. Mais sur TikTok, souvent, ils sont très très jeunes, ils n'ont même pas le droit de vote.
Non, même pas le droit de vote, effectivement. Sauf que je te dirais que pour des non-voteurs, justement, ils ont eu plus d'impact.
Pouvoir. Ils ont du pouvoir. Ça. Ils ont un gros pouvoir.
C'est ça que ça montre, tu sais, c'est ça que ça montre. Et au final...
Oui, vas-y. Non, j'allais dire que, en fait, oui, effectivement, pour l'image du week-end, ça comptait beaucoup. Je suis très d'accord, Catherine, en un sens, mais pour l'élection comme telle, je pense pas que ça change grand-chose. C'est sur l'image du week-end que ça a eu un gros effet. Si jamais c'est ça, effectivement, qui s'est passé.
Exact. Sur la forme et sur le fond, tu sais, je pense que c'est quand même bon qu'on prenne quelques instants pour se parler de certains des propos que Donald Trump a tenus sur la COVID-19, parce qu'évidemment, c'était le premier rallye qui avait lieu depuis le début de la pandémie.
La Kung-Flu.
La Kung-Flu, telle qu'il l'a même rebaptisé lors du discours de samedi.
C'est gênant.
Mais écoute, c'est pas tant ça qui est gênant, en fait, pour lui. C'est les propos qu'il a tenus juste un petit peu après ça. On va les écouter, puis on revient tout de suite après.
When you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please.
Ah, c'est magique. On arrête les tests, il va y avoir moins de cas.
C'est ça. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il a demandé, il a ordonné à son personnel de ralentir le dépistage de la COVID-19 parce que si... Et le pire, c'est que techniquement, il a raison. C'est vrai que si vous dépistez davantage, vous allez avoir plus de cas recensés.
Mais c'est lui, ce qu'on veut. Mais on veut la vérité. On veut le savoir.
Mais c'est exactement. C'est pour ça que ça se disait pas. Surtout pas comme président des États-Unis. Il dit qu'il ordonne à son personnel de donc ralentir le dépistage pour qu'on ait moins de cas recensés parce que quand il y a plus de cas recensés, ça le fait mal paraître comme président. Et ou c'est pour ça que je te dis que ça devient vraiment fâcheux pour lui, c'est que là, ça fait 48 heures et encore, il y a à peine quelques heures, on lui a posé la question là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou non que vous avez réellement ordonné à votre personnel de ralentir le dépistage? Il n'a même pas voulu répondre directement à la question. T'sais, fait gros coup d'épée dans l'eau pour essayer de relancer sa campagne, on s'entend. Et Marc-Claude, rapidement, parce que je sais qu'il nous reste pas beaucoup de temps.
Il nous reste une minute.
Bon, ben en une minute, quand même quelques mots sur la question des deux Canadiens qui sont... prisonniers, puis oui. Écoute, je pense pas qu'il faut mâcher nos mots là-dessus.
Non, ils sont prisonniers en Chine. Prisonniers,
des, ben, c'est pas juste ça, c'est des prisonniers politiques,
là, disons-le
très
tout
clairement. Depuis maintenant, quoi, à peu près 2 ans, l'administration Trump, justement, qui vient de sortir là, très, très clairement en disant qu'ils appelaient à la libération des deux Canadiens en question. Ça arrive quelques heures après que le gouvernement chinois, pour pas dire la dictature chinoise, les ait formellement inculpés. On parle notamment de chefs d'accusation d'espionnage, mm-hmm. Mais sais-tu ce qui est remarquable? Ils n'ont toujours pas accès à des avocats.
Non, je sais. Non,
ils
je
n'ont
sais.
Toujours pas d'accès à des avocats.
Oui, puis moi, ce qui m'arrache le cœur, c'est que depuis à peu près un mois après le début de sa détention, il y a un des deux Michael à qui on a enlevé ses lunettes. Il ne peut même pas lire.
C'est d'une atrocité
sans nom.
C'est
d'une cruauté sans nom. Ouais, ben enfin, au moins, Washington s'en mêle. Il était à peu près temps.
Effectivement.
Écoute, Raphaël, merci infiniment. On se retrouve demain. Là, on va s'arrêter pour les nouvelles. Et au retour des nouvelles, ce sera l'heure des chroniqueurs. Et on parlera aussi un petit peu de la pandémie. Et quelqu'un de l'OMS sera avec nous.